C'est ça, Casimir n'est pas là, mais on a écrit la présentation ensemble. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on a tous les deux travaillé sur l'IXOM, on s'est rencontrés dans un colloque et en fait, pour nous, c'était l'opportunité ici de mutuellement se poser la question sur la place de la virilité dans les nouvelles de l'IXOM. Donc, vous allez voir, la présentation est vraiment sous forme plus de questionnement ou d'observation sur ce sujet-là. Donc, je commence. Très, très peu connue au Québec, Rosa Luxem est une des figures les plus colorées et controversées de la littérature finlandaise contemporaine, mais aussi l'une des plus reconnues. Elle a notamment remporté le plus grand prix en Finlande de littérature, le prix Finlandia. Donc, dans un pays où la tradition littéraire est fortement réaliste, Luxem offre une vision du réel qui est tordue, violente et qui, loin de représenter des personnages qui réussissent à surmonter les multiples difficultés que présente une vie, inscrit ce même personnage dans l'échec. Dans une écriture fortement ironique et dotée d'un certain humour noir, les personnages des recueils Le cru de l'oubli en français, Noir paradis et Bas malama, tous publiés dans la fin des années 80, début des années 90. Donc, tous ces recueils-là dévoilent de façon fragmentée une partie de la vie des personnages. Inscrits dans le quotidien et l'intimité, ces récits permettent ainsi d'accéder à la part plus sombre de ce qui fait une vie. Pour ce colloque, Casimir et moi, nous sommes intéressés à la façon dont les personnages masculins négocient leur rapport au genre et à comment, dans bien des cas, cette négociation s'avère difficile et débouche sur un échec. Dans « Masculinité, enjeux sociaux de l'hégémonie », la professeure de sociologie Raewyn Connell, j'espère que je prononce bien son nom, écrit que, donc je cite, « Plutôt que de tenter de définir la masculinité comme un objet, un type naturel de personnalité, une moyenne comportementale, une norme, nous devrions nous concentrer sur les processus, les rapports et les relations qui construisent le genre. » Pour elle, la masculinité, s'il était possible de définir brièvement ce terme, pourrait être simultanément comprise comme un lieu au sein des rapports de genre, un ensemble de pratiques par lesquelles des hommes et des femmes s'engagent en ce lieu, et les effets de ces pratiques sur l'expérience corporelle, la personnalité et la culture. Donc, de la même façon, nous avons cherché à comprendre la masculinité à partir des processus par lesquels elle se fonde. Dans le cas des textes de Luxem, il est d'autant plus intéressant de noter que la nouvelle, comme forme, nous permet d'étudier l'expression individuelle de la masculinité et son déploiement, tandis que le recueil, comme regroupement, permet de mettre en rapport de façon dialectique la voix de ces différents personnages, permettant ainsi d'en comprendre les ramifications. Multiforme et pluriel, l'étude de la masculinité dans les textes de Luxem n'offre ainsi pas une vision unique ou unifiée du genre, mais des fois plutôt la diversité des pratiques de garçons, de jeunes hommes et d'hommes adultes qui témoignent d'un difficile rapport au genre. Aussi, à partir de récits personnels, nous avons identifié deux thèmes qui traversent les trois recueils et qui sont liés à l'expression « trouble de la masculinité », soit d'abord la nature et la masculinité nordique, la fuite ou l'envahissement, et ensuite, par rapport aux sexualités masculines, nous avons identifié la perte de l'innocence, l'absence et l'hyperperformance. Dans la nature et la masculinité nordique, on s'est beaucoup basé sur les travaux de Juha Rydänpää, qui est un chercheur et professeur à l'Université d'Oulu, dans le nord de la Finlande. Celui-ci s'inspire du cadre d'analyse proposé par les études postcoloniales pour penser les distinctions entre le nord et le sud de la Finlande, mais aussi pour penser l'imaginaire littéraire comme agent social capable de produire, reproduire ou encore combattre les stéréotypes de genre. Il rappelle d'ailleurs dans l'article A Masculinist Northern Wilderness and the Emancipatory Potential of Literary Irony, que je cite, The genre of Lapland literature was overly masculine or masculinist in several ways. Durant la première moitié du 20e siècle et particulièrement durant la période de l'entre-deux-guerres, la nature sauvage du Nord était un sujet très populaire dans la littérature finlandaise. Souvent écrite par les auteurs masculins venant du sud du pays, cette littérature s'est construite suivant la vision sudiste et masculine de ceux qui ont représenté l'espace nordique, faisant ainsi la Laponie un espace romantisé et exotisé dont l'imaginaire largement colonisé, pour reprendre ces termes, représente la nature féminine comme devant être investie, domestiquée ou encore conquise par l'homme. Dans son étude des mythes et des stéréotypes et des relations de genre dans cette littérature, il conclut que sexism is the fundamental structure upon which the mythology of northern exoticism is based. Pour Ridanpa, l'Iksum, qui est elle-même originaire de la Laponie finlandaise, utilise et détourne les conventions de cette littérature et se sert de l'ironie pour déconstruire les stéréotypes masculinistes du Nord, ce qu'elle fait de façon particulièrement frappante dans son premier roman, Kreisland, une satire postmoderne. Ridanpa démontre ainsi que l'Iksum, donc, utilise cette ironie de façon à faire de son projet, de son œuvre, un projet émancipateur contre les stéréotypes masculins associés au Nord finlandais. La première nouvelle du recueil, Le cru de l'oubli, paru en 1986, présente un protagoniste qui peine à fonctionner en société. Narré à la première personne, l'homme vit avec ses parents dans une ville sans nom de Laponie. Son incapacité à éprouver de la satisfaction dans des rôles traditionnellement masculins, comme celui de l'amant, du soldat ou encore de l'éleveur de rennes, le pousse à questionner sa propre masculinité. Donc, je cite l'homme. « Ça m'est souvent venu dans la tête. Qu'est-ce que je suis comme homme? Il y a quelque chose de mon être qui a dû aller faire un tour en enfer quand on pense à ce que je suis devenue. J'ai toujours été fermée comme un mur. Je me suis toujours plu à être à part des autres, déjà tout petit. J'ai jamais senti le besoin de parler. Ma tête, je sais qu'elle n'est pas normale et quand on est comme ça, vaut mieux la fermer. » Dans cette nouvelle, l'Iksum emprunte clairement l'imaginaire social et littéraire finlandais de la masculinité pour créer un protagoniste qui concentre et remet en question certains des éléments les plus dominants de cet imaginaire. Par exemple, j'ai repris l'article « Narratives of Masculinity and Depression » de Jukka Valkonen et Vilma Hanninen, qui démontre que l'idéal culturel masculin s'est construit sur des modèles hérités du 19e siècle qui ont encore cours dans la société finlandaise. Donc, une société qui est un peu similaire à celle du Québec. Donc, on est vraiment dans l'idée d'un travailleur assidu, presque d'un défricheur, ou encore dans le cas du soldat patriotique. On est aussi dans un imaginaire qui est ancré dans les guerres passées, dans un traumatisme associé à ces guerres-là, et sur les restants d'une urbanisation tardive et d'une ruralité décalée. Aussi, le protagoniste de la nouvelle ne semble pas apte à répondre aux exigences de cet idéal masculin. Dans la tradition littéraire nordique finlandaise, plusieurs auteurs du Sud mettent en scène des personnages masculins quittant la civilisation pour se confronter à la nature sauvage. Ils en revenaient donc transformés et plus virils que jamais. Préférant la fuite dans la forêt plutôt que le rôle de l'amant, du soldat et de l'éleveur, la nouvelle évoque ce thème, mais en le détournant. Aussi, si la fuite dans la forêt servait à cette époque-là à prouver sa masculinité, elle devient dans cette nouvelle une façon donc de refuser de performer son genre. La nature devient un espace de solitude et de paix, offrant un échappatoire pour celui qui n'arrive pas à fonctionner selon les normes contraignantes de la masculinité. La nouvelle se termine ainsi, je cite, « J'ai honte de moi devant les hommes, c'est pour ça que je veux fuir dans la forêt. Là, on peut faire tomber les arbres et les pins droit sur le sol sans qu'on vous jette des regards en dessous. Là, je peux être sans cette mince écorce dans laquelle l'homme a été enfermé par la création. Malgré le fait que la nature semble se voir attribuer le rôle féminin de paradis presque préculturel, en opposition avec la sphère culturelle supposée masculine, la relation entre nature et masculinité reste ambivalente dans Le cru de l'oubli. C'est notamment dans les recueils subséquents que l'auteur utilise de plus en plus l'ironie dans ses textes et que là, on voit que la distinction entre la relation de nature et masculinité devient de plus en plus importante. Par exemple, dans une nouvelle du recueil Bamalama, publiée en 1993, la nature est dépeinte comme un environnement sombre, froid et menaçant pour l'homme qui cherche à s'en extirper. Et c'est par la violence que celui-ci arrive à s'introduire dans l'espace domestique. Le narrateur, un homme de Laponie finlandaise, se rend chez lui avec son tracteur après une soirée à jouer au bingo et à boire. C'est une nuit d'hiver froide et sombre. En arrivant à la maison, celle-ci est verrouillée, et l'homme se bute au refus de sa femme de le laisser entrer. Je cite, « Elle est là dans le vestibule et elle me crie que maintenant, c'est terminé les souleries. T'arrêtes ou alors tu passeras plus le seuil de la porte. » Ce à quoi répond le mari, je cite, « J'ai commencé à faire un tapage de tous les diables et je lui ai gueulé. Ici, c'est moi le patron et un gars comme moi se laisse pas mettre à la porte comme ça. » Enragé, l'homme prend sa scie électrique et entreprend de démolir la porte. Je cite, « Elle, à l'intérieur, complètement affolée, beuglait comme une vache. Il va tous nous tuer. Les gosses couraient dans toute la maison en hurlant, comme s'ils avaient reçu un coup de couteau dans les poumons. La femme et les enfants s'échappent finalement par la fenêtre pour se réfugier dans l'étable. Une fois dans la maison, l'homme est satisfait de lui-même et de la façon dont il a géré la situation. Il décrit à la fin de la nouvelle, je cite, « Je me suis assis sur le sofa et je me sentais mieux. Bon, je ne leur aurais pas fait la peau, mais c'est bien fait pour elle. Comme ça, la vieille, elle aura compris. Qu'elle croit pas qu'elle peut me baiser. Je me suis couchée, je me suis fait une petite branlette, je rigolais. C'est pas encore aujourd'hui qu'on va foutre un gars comme moi à la porte de chez lui. » Contrairement à la nouvelle précédente, celle-ci met en scène un homme qui affiche une masculinité plus assumée, donc on pourrait dire même plus normative, notamment par la référence à l'homme de la maison, le patron, par l'usage de la violence, même par l'idée de la branlette. L'usage du tracteur et de la scie électrique indique également que l'homme se conforme à l'idéal masculin de l'homme travaillant que j'ai évoqué précédemment. Comparant les deux nouvelles étudiées, il est intéressant de noter que dans la perspective d'une nature dite « féminine », celle-ci apparaît dans la première nouvelle comme protectrice nourricière, alors que dans la deuxième, l'homme utilise la violence pour quitter cette même nature qui apparaît comme froide et inhospitalière. Dans la première, l'homme n'a pas d'âge, mais plusieurs éléments l'associent à un jeune homme, notamment le fait qu'il vive encore chez ses parents. Il reste que ce dernier apparaît comme incapable d'atteindre le statut d'adulte et de quitter une nature qui paraît presque maternelle pour lui. Il semble ainsi pris dans l'enfance parce que pris dans son genre. Le deuxième homme, quant à lui, par la performance réussie, pourrait-on dire, de sa masculinité virile, est homme. Il atteint ainsi le statut d'adulte et en revendique les pouvoirs. Par l'Ixum, l'image ironique de l'homme de la maison se dévoile toutefois dans toute sa violence et son pathétisme. Dans une entrevue avec Ridanpa, l'Ixum présente un point de vue très critique sur la masculinité mise de l'avant par les hommes du nord de la Finlande. Donc, elle dit... The northern tradition, as I have lived through it, is patriarchal and manly. Women and children have no say in anything, but the men order and determine everything. A woman in the northern culture is a workhorse who slugs her guts out for her family. The men are often drunkards, incompetent and lazy, whose mission in life is to whip their wives and scold them. The man's world is unquestionable and he is an autocrat in his family. Il est difficile de déterminer à quel point Dixon, un hyperboliste notoire, amplifie ici une problématique réelle ou non et à quel point il joue avec les stéréotypes que son travail reprend et met en jeu. Sa relation avec la tradition littérale à Laponie, avec la masculinité qu'elle présente, reste ambivalente, au sens où il est difficile de définir clairement à quel point il considère ces mêmes stéréotypes masculins comme représentatifs de la réalité. Dans tous les cas, cette nouvelle ébranle la masculinité nordique en la critiquant et en la ridiculisant, et par là, pousse à questionner la validité de ce qui la fonde. Pour ce qui est de la sexualité masculine, donc nous intéressons aux multiples représentations de la sexualité masculine dans les trois recueils de nouvelles. Nous avons décidé de nous pencher sur celles narrées par des hommes afin de comprendre comment ceux-ci vivent et négocient leur rapport aux attentes sociales relatives à la sexualité. Aussi, par l'étude de ces nouvelles, nous avons pu identifier trois thèmes récurrents dans la représentation de la sexualité masculine, soit la perte de l'innocence, l'absence de sexualité et la puissance sexuelle. Alors que la sexualité des jeunes filles est représentée dans l'ensemble des trois recueils, celle des jeunes garçons se retrouve principalement dans le recueil « Le cru de l'oubli », qui est d'ailleurs le plus poétique des trois. Dans celui-ci, Nixum présente plusieurs récits dans lesquels de jeunes garçons et jeunes filles partagent des moments d'intimité. Souvent décrites comme l'âge de l'innocence, l'enfance est davantage, dans les textes de Nixum, une période d'éveil à la lucidité par laquelle la vie se pose dans toute sa complexité et sa brutalité. Aussi, la troisième nouvelle du recueil, du Creux de l'oubli, s'ouvre sur la description banale d'une chambre d'enfant. Dans le petit lit blanc dorment une jeune fille et un jeune garçon. Se réveillant tard, ils font l'amour comme chaque matin et comme chaque soir. Après leur relation, il y a, je cite, « sur le visage du garçon une expression inquiète et triste, et sur le visage de la fille, aucune expression. Elle se lève et s'habille de ses vêtements noirs, je cite, « le garçon reste allongé sur le lit et retient sa respiration. Il pense à toutes ces erreurs qu'il voulait éviter dans sa vie. La fille lui jette un léger regard indifférent et commence à habiller ses poupées de leurs vêtements ordinaires. La nouvelle se termine sur le garçon qui, je cite, « regarde la fille qui joue, absente de son être. Il sent la tristesse qui grandit en lui et le remplit totalement. À la peine du garçon se pose l'apathie de la jeune fille, alors que la ligne séparant l'enfance de la maturité semble trouble. De façon similaire, la nouvelle suivante présente le récit d'un garçon et d'une fille qui sont, je cite, « si petits et amoureux ». Ils ont fait l'amour 7 fois par jour et se sont jurés un amour éternel. Toutefois, quelques semaines plus tard, la jeune fille rejette le garçon. Je cite, « Sur le visage du garçon, il y a une expression de désespoir et aussi de haine. » Comme pour la nouvelle précédente, l'émotivité du garçon se confronte au détachement de la jeune fille. Dans l'article « Growing up masculine, rethinking the significance of adolescence in the making of masculinities », Connell écrit « Adolescence is commonly pictured as a time of sexual awakening, autoerotic experiments and first sexual relationships. Sexual experience is often a source of pride and a claim to masculine honor among teenage boys. » Dans le contexte des nouvelles, la sexualité adolescente est, pour les garçons, davantage marquée par le rejet, la solitude et la tristesse. En ce sens, la perte de l'innocence chez les jeunes garçons, les nouvelles de Dixon, concerne principalement un éveil sexuel et affectif qui s'avère difficile et douloureux. Dans le même article, Connell rappelle « Since masculinities are by definition the configuration of practices associated with the social position of men, the life histories of boys are the main site of their construction. » Ainsi, l'étude du passage entre la jeunesse et l'âge adulte dans les nouvelles de Lixom nous permet, nous le croyons, d'enrichir notre compréhension des façons dont est construite la masculinité normative et de façon plus juste dans les nouvelles de Lixom, la façon dont les garçons et les jeunes hommes échouent à performer une masculinité qui leur permettrait de se prévaloir du statut d'homme. Dans le passage entre ces deux états, il semble même que la performance de la masculinité importe davantage que l'âge dans l'atteinte de la maturité. D'ailleurs, il existe en finnois une expression assez drôle qui est « perakamarin poika », qui décrit un homme qui, à la suite d'un échec, d'un trauma ou encore d'une dépendance, souvent à l'alcool, se retrouve pris dans une position sociale entre l'enfance et l'âge adulte. Souvent considérés comme des incapables, ces hommes qui sont suspects n'arrivent pas à trouver leur place dans la vie et dans la société. Cette représentation sociale se retrouve dans plusieurs des nouvelles de Lixom, comme celle dont il a été question lors de notre étude de la nature. Le narrateur est un homme vivant chez ses parents, donc, comme on l'avait dit, dans un lieu reculé où les possibilités et les rencontres se font rares. Bénéficiant de l'aide sociale, il n'a pas d'emploi et il passe la plupart de son temps dans la forêt. L'âge du narrateur est inconnu du lecteur, mais il semble donc relativement jeune. Toutefois, tout ce qui est par rapport au fait qu'il vit avec ses parents, qu'il n'a pas d'emploi et pas de partenaire, le situe d'emblée dans cette catégorie d'hommes pris dans un entre-deux, les empêchant d'être considérés socialement comme de vrais hommes. Dans ces cas, l'absence de sexualité contribue à démasculiniser le personnage. Dans la nouvelle, il raconte « Une fois, j'ai eu une fille. On a été ensemble longtemps. » Tout le monde croyait que maintenant, tout va bien aller pour moi et que je vais pouvoir me marier. Pourtant, malgré les sentiments qu'ils partagent l'un pour l'autre, l'homme n'arrive pas à avoir des relations sexuelles avec la femme parce que, selon lui, il y a quelque chose de mal en lui. Quand on était chez moi, on a couché ensemble plusieurs fois, mais j'y arrivais pas. C'était simplement comme ça. Quand elle était à côté de moi, je bandais pas. Je pouvais rien y faire. Dans la nouvelle numéro 14, même recueil, les nouvelles n'ont pas de titre, donc c'est souvent numéroté ou simplement sans rien. Un jeune homme se retrouve lui aussi dans une situation d'incapacité sexuelle. Dans son cas, toutefois, celle-ci résulte d'un trauma lié à une agression qu'il a lui-même commis sur une jeune femme. Vivant lui aussi chez ses parents, donc encore dans une communauté éloignée du nord de la Finlande, il dit « Il y a des moments comme ça, je pense à ce que c'est qu'une femme. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'en avais dans les couilles et je voulais toutes les essayer. Il y a des moments où je regrette que je me suis approchée des femmes, mais il y a aussi des moments où je trouve que ça manque rudement et je me souviens du passé. Après une soirée arrosée, il se retrouve sur la banquette arrière d'une voiture avec une fille d'un village voisin. Je cite, « Ce que je me souviens, c'est qu'elle rotait tout le temps et qu'elle n'arrêtait pas de réclamer à boire, même si elle tenait déjà une bouteille. Tous les autres mecs, ils parlaient d'elle quand ils étaient sous comme des cochons, toutes sortes de choses tristes. Se basant sur les connaissances acquises dans un magazine porno, il perd donc sa virginité avec elle ce soir-là. Je cite, « J'ai essayé de lui faire tous les trucs que j'avais lus. J'y suis arrivée, je crois. Elle n'a pas proféré un son. Elle ne m'a pas touchée. Je me souviens quand même que tout de suite après, j'ai été envahie par une grande tristesse. J'aurais voulu pleurer. J'avais l'impression que j'aurais dû me tuer là tout de suite. C'est pas sur moi que je pleurais, mais sur cette pauvre fille, seule. Je pleurais sur la fille, sur son destin. Ou peut-être que je pleurais sur moi. J'avais perdu pour toujours mon innocence. Après cette histoire, j'ai compris que je ne pourrais jamais devenir un homme bien. C'est tellement mal ce que j'avais fait que je ne pourrais jamais me pardonner. J'ai compris que je ne pourrais plus jamais toucher à une femme. Aussi, aussi le jeune homme associe-t-il à une masculinité brutale la violence des gestes posés. Je le cite une dernière fois. Pour moi, c'est une preuve éternelle de ce qu'il y a de mauvais en nous, les hommes. Le mal, la brutalité. De la sexualité absente, donc, à ce qu'on va complètement à l'hypersexualité, la sexualité masculine est représentée dans l'œuvre de Lixom dans ses formes les plus diverses et extrêmes. Toujours avec la même ironie, les récits qui représentent la puissance sexuelle masculine participent également à un questionnement plus large sur la construction de la masculinité normative. La nouvelle numéro 18 du recueil Bamalama s'ouvre sur le récit d'une personne ayant toute sa vie travaillé comme prostituée. Donc, comme elle le fait souvent, Dixon crée une certaine ambiguïté quant au genre du narrateur et joue avec les attentes et les stéréotypes de son lectorat. Aussi, par rapport au genre de la prostitution, dans ce cas-là. Dans cette nouvelle, un narrateur masculin décrit fièrement son succès professionnel comme prostituée, les gains accumulés avec le temps, puis son ambition tout au long de sa carrière. Pour lui, tout a été possible grâce à ce qu'il appelle son privilège de naissance. Je le cite, « Il faut dire que j'ai comme un privilège de naissance. J'ai une bite toujours prête, dure et qui s'est bien enculée. Pour moi, ça ne fait pas de différence si on me fout devant le nez de la viande hachée, un joli petit cul de gonzesse ou les miches poilues d'un mec. La bite en avant, je bande et je fonce. Il n'y a plus qu'à mettre le tigre dans le moteur. » Utilisant un vocabulaire associé donc à la performance sexuelle, l'homme décrit également des pratiques sexuelles qui rompent avec une compréhension, disons, hétéronormative de la puissance sexuelle masculine. De la même façon, dans la nouvelle numéro 28 du même recueil, un jeune homme violent, après s'être fait arrêter, rencontre un policier charismatique qui lui fait une forte impression. Suite à cet événement, il décide de changer de vie radicalement et s'inscrit à l'académie de police. Maintenant, ça fait 5 ans que je fais ce boulot de flic. J'habite toujours avec mes vieux au centre de Kerava et on s'entend super bien. Ils sont tous les deux retraités. Maman me fait la bouffe, me lave mes caleçons et joue au loto pour moi. Mon vieux lave la Toyota, nettoie les tapis de ma chambre et m'achète des revues porno hard des USA que je lis dans les chiottes. La vie du jeune homme chez ses parents s'oppose ironiquement à l'imaginaire entourant la profession de policier, par l'idéal de l'hypermasculinité, le pouvoir qu'elle transmet. À la description enfantine de sa vie chez ses parents s'ajoute une deuxième rupture à l'imaginaire masculin policier. Depuis 5 ans, chaque mercredi soir, je retrouve Karhula dans la forêt de Mantumaki et notre relation est super bien huilée. Il est marié, il a 3 enfants, il ne veut pas divorcer. Sa femme est docile et facile à vivre. Et moi, je ne peux pas me faire l'idée que je pourrais habiter ailleurs que chez maman. Je traverse toute la ville et on tire notre coup en vitesse. Il m'arrache les pantalons et m'enfonce sa bite dans le cul. Je fais toujours comme s'il ne se passait rien de spécial et ça, il adore. La description de la relation homosexuelle intègre plusieurs caractéristiques dominantes de l'imaginaire policier, dont la force, la violence, le pouvoir, tout en présentant un type de sexualité qui va à l'encontre de la norme masculine. La nouvelle incorpore également plusieurs éléments de la culture gay, notamment parce qu'il est vu en Finlande comme un pastiche de l'œuvre de Touko Laaksonen, mieux connu sous le nom de Thomas Finlen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, on est plus dans ces représentations-là du policier que dans quelque chose d'un peu plus normatif. Donc, comme le rappelle Florence Tamagne dans l'ouvrage collectif « Histoire de la virilité », le troisième tome, La vérité en crise, à force d'être surjouée, l'hypervirilité finissait par être camp. Le gay macho n'était alors plus rien d'autre qu'un mâle impersonnel. impersonator, un homme travesti en homme. Il était finalement très queer. Aussi, par le nom de l'officier charismatique, Karhula, Karhu en finnois, ça veut dire ours. Donc, le texte peut être compris comme évoquant, d'une certaine façon, la communauté bear, homosexuelle. Donc, je lis la définition qu'en font les auteurs de l'article Understanding the Bear Movement in Gay Male Culture. Stereotypically, bears are hirsute, je m'excuse de la prononciation, gay men whose attractiveness is based upon an aesthetic of maturity and traditional masculinity. Donc, encore là, on est dans une masculinité traditionnelle qui est subvertie. En ce sens, donc, les deux nouvelles présentent une puissance sexuelle qui est à la fois très masculine et non hétérosexuelle. Je vais conclure très, très, très brièvement, mais Casimir et moi, on a vraiment essayé de pas aplatir les nombreuses représentations de masculinité qu'il y a dans l'œuvre de Lixom. On a vraiment juste essayé de retrouver des liens qui pouvaient se faire entre les différentes nouvelles pour avoir une vue un peu plus générale. Mais Lixom est vraiment dans une déconstruction constante des normes, mais aussi de ce qui pourrait être une attente dans le texte. Donc, c'est assez difficile de savoir où elle veut en venir, là, en fait. Mais moi, peut-être plus personnellement, je pense que la littérature et l'art en général en Finlande est plein de représentations d'hommes qui sont dans une extrême vulnérabilité, qui sont aussi représentés comme vraiment des figures de perdants, de gens un peu perdus, qui offrent vraiment, je pense, une réflexion sur la virilité, sur la masculinité qui est extrêmement intéressante. Donc, ce serait peut-être à nous de pousser ça un peu plus, mais je m'arrête là. Merci. Merci.